Qu'est-ce qu'il a bossé tout l'hiver?
De qualité.
C'est du boulot.
Un travail de qualité. Comme il l'a dit, ça sent barbecue.
Comme on est dans une procédure juridique, je vais laisser Jean-Baptiste y répondre. La firme.
Ce vaste sujet. Ça dure. Monsieur le juge judiciaire, pour l'heure, n'a pas rendu son jugement. Et c'est entre ses mains que ce dossier est placé. Il est placé dans ses mains après un jugement du juge administratif qui, lui, a ordonné la suppression de du rendu de conseil municipal autorisant cet achat à ce prix-là. Donc, on peut considérer que le juge administratif a annulé la vente, sauf qu'il n'en a pas de pouvoir. Seul le juge judiciaire peut le faire véritablement. Donc, on ne voit pas comment le juge judiciaire pourrait contredire le juge administratif, comme vous pouvez le comprendre. Néanmoins, il peut rendre son jugement quand... C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant... Si je vous donne des explications, ce ne seront malheureusement que des hypothèses. Je n'aime pas beaucoup faire ce genre de choses. Je ne suis pas Madame Irma. Bien, vous comprendrez que sur ce sujet, il vaut mieux être prudent. Et on ne peut pas se mettre à la place d'un juge. C'est à lui de dire ce qu'il a à dire.
Et comment peut-on lancer une opération sur un territoire qui n'appartient pas à la commune?
Alors, on peut lancer une opération sur un territoire qui n'appartient pas à la commune, puisque vous avez su sans doute que dernièrement, des lettres ont été adressées à tous ceux qui possédaient des terres qui sont comprises dans l'emprise, et tout cela pour les exproprier. D'ailleurs, ils sont dans la lettre, ni plus ni moins, menacés d'expropriation alors qu'aucune décision n'est prise. Ça, oui, c'est plus difficile à comprendre. Donc, l'expropriation permet d'investir une étude et un projet sur des terrains qui n'appartiennent pas à la collectivité.
Dernièrement, sur les FR3 régionales, la spectrine qui présentait le port de Bretignolles, le projet de port, a annoncé que les territoires sur lesquels allait être construit ce port appartenaient à 90% à la mairie de Bretignolles.
Non.
Oui, nous avons pu remarquer ce genre d'allégations dans d'autres documents aussi. Bien, il n'en est rien, c'est tout à fait vrai. Donc l'inventaire des zones à exproprier, il faut bien comprendre qu'elles sont de deux natures. Il y a la première qui est celle de l'emprise directe du projet dans ces ouvrages. Et il y a une autre partie de terrain comme ça qui serait expropriée si l'autorisation était donnée de faire ce projet pour des raisons de compensation aux dégâts causés par le projet. Donc le compensatoire, ce sont des terres qui ne sont pas forcément dans l'emprise directe de l'ouvrage, mais qui sont prévues être en expropriation pour pouvoir faire ces compensations. Donc là, votre question, ça fait, je dirais, certainement un pourcentage en dessous, bien en dessous de ce que vous venez de dire, évidemment. Non, la maîtrise foncière de la commune est loin du chiffre que vous avez donné, qu'il a donné, c'est sûr.
Bonjour. Vous n'avez pas voulu ou pas pu, aborder l'aspect budgétaire de cette opération. C'est peut-être pas l'aspect le plus fun, mais c'est quand même une argumentation contre. J'ai vu le budget, j'ai vu ça quelque part, 51 millions d'euros, dont 31 millions d'euros d'emprunt à la charge de la communauté. Alors je ne sais pas trop quelles sont les banques qui vont se lancer dans cette affaire et quelles sont les garanties qui vont être apportées. Par contre, je vois assez mal l'État ou les hommes politiques se lancer avec une telle casserole un jour attaché aux fesses. Subséquemment, conséquemment, quand vous êtes gendarme, Est-ce que vous avez, par exemple, contacté M. Retailleau pour lui demander son avis?
On suit M. Retailleau, on l'a contacté. Par contre, concernant les coûts, alors, dans les observations qu'on a formulées, on ne s'est pas intéressé aux coûts. En fait, quand vous regardez le montage financier, les coûts qui sont dans le dossier, c'est des coûts qui sont donnés par le promoteur du projet, sans incertitude, pratiquement. Sans incertitude, en disant, il affiche les trucs, on tiendra ça, etc. Bon, on sait, il y a donc une équipe qui est en train de travailler aujourd'hui sur le coût, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un point qui a été largement sous-estimé, c'est le coût des terrassements. On a des références en termes de coûts de terrassement, et on sait ce qu'ont pris les promoteurs du projet, et il y a un décalage qui est très très important. Bon, ça c'est un point. Nous, dans le dossier des observations, on s'est plutôt intéressé à la maîtrise des coûts. On a apporté des éléments qui sont incontestables, comme quoi il n'y a pas un grand projet d'aménagement qui est réalisé sans dépassement des coûts, et des projets d'aménagement portuaires, hein, sans dépassement des coûts et sans dépassement de délai. Donc qu'on ne vienne pas nous dire que le port de Bretignolles, ce sera l'exception.
Or, l'argument qui était dans le document que j'ai lu était que ce serait remboursé par les quelques centaines de milliers d'euros rapportés par les anneaux. On ne peut pas faire des anneaux de centaines de milliers d'euros pour rembourser les intérêts de l'État pour prendre des millions de passé. Et qui va les garantir?
C'est le. Disons que les promoteurs du projet vendent leur projet comme ça. C'est-à-dire que ça ne coûtera rien aux contribuables. Ça ne coûtera rien, c'est vendu comme ça, hein. Ça ne coûtera rien aux contribuables. Et c'est les revenus. Il y a donc au départ un emprunt important. Et c'est les revenus, effectivement, de location. Parce que, en fait, dans le montage financier pour financer l'opération, il y a un emprunt, il y a la vente d'anneaux par amodiation. Et puis, il y a une subvention du conseil départemental. Ensuite, le remboursement de tout ça, c'est uniquement par les revenus. C'est les revenus de location des anneaux restants qui doivent servir au remboursement des emprunts, aux opérations de dragage, différents services, etc. Et je suis d'accord avec vous, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Et de toute façon, déjà, effectivement, ils ne seront pas respectés. Il faudra emprunter plus. Alors, quand vous à Christophe Chabot, il faut emprunter plus, il répond, eh bien, on étalera les remboursements dans le temps. Voilà ce qu'il veut. Il l'a dit d'ailleurs en réunion publique. Mais, comment imaginer qu'on n'a pas de nouveaux investissements sur un port de plaisance dans les 20 ans d'exploitation d'un port de plaisance?
La terre de Biblé.
Donc.
La terre de Biblé. Elle sera étendue.
Voilà, oui. Elle sera le belvédère.
Non, M. Retailleau, non. On n'a jamais eu contact, M. Retailleau.
Plus près
le micro, sur le menton.
Oui, j'ai des amis à Quex qui m'accusent que je vais leur coûter très très cher pour le port, parce qu'ils ne sont pas du tout concernés.
Eh ben,
le seul sujet, c'est la finance.
Ils n'ont qu'à participer à l'enquête.
Est-ce qu'on va répondre à ces gens-là?
Il faut participer à l'enquête.
Les réunions de concertation préalable qui ont eu lieu sur le projet de port ont été très révélatrices. La seule commune qui véritablement s'est mobilisée au cours de cette réunion, de la réunion publique qu'il y a eu, c'est la ville de Bretignolles. Dans tous les autres, je pense qu'à Saint-Hilaire, à Saint-Gilles, qui pourtant sont deux centres importants, et même dans les autres communes, il y avait très 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 peu de monde. Très peu de monde. Donc je pense qu'à l'enquête publique, ça va être la même chose, hein, effectivement.
sur cette question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le rapport qui a été fourni d'ailleurs dans le dossier général pour ce projet, l'autorité environnementale a souligné l'absence d'ailleurs de ce rapport sur cette concertation préalable. C'est vous dire à quel point on a tenté de cacher le résultat de cette enquête de concertation préalable. J'ai assisté aux réunions publiques qui ont eu lieu à Saint-Hilaire et celle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'une et l'autre totalisaient 25 personnes. C'est vous dire. À l'instant, je voudrais tout d'abord vous dire que les associations environnementales qui sont avec nous et qui nous soutiennent, il y a quand même le secteur donc du CPNS qui concerne le canton de Saint-Gilles, qui est affilié à VNE, dont ici j'ai le président qui voudrait quand même, je lui passe la parole parce qu'il est nécessaire que vous entendiez que le secours et le soutien des autres associations est présent avec nous.
Merci. Je voulais juste répondre à la question de monsieur qui s'inquiète de ses liens d'amitié avec des gens de GOEX, ce qu'on peut comprendre. Je pense que la réponse à apporter à ces personnes, c'est que l'enquête publique est là pour ça et il faut que ces personnes disent au commissaire enquêteur leur inquiétude sur les budgets à venir. C'est pas dans leur commune, c'est pas grave. L'enquête publique, elle est ouverte à tout le monde.
Les gens vont pas se déplacer. Hein. S'ils l'ont pas dans leur commune, les gens vont pas se déplacer.
Ils ont un registre électronique. Il faut les aider peut-être. Mais c'est typiquement le genre d'intervention qu'ils doivent pouvoir prendre place dans le cadre d'une enquête publique. C'est un élément parmi d'autres qui doit être pris en compte. Voilà, bon, c'était juste ma réaction à cette réponse. J'insiste sur le fait que l'enquête publique, c'est l'instant de vérité. C'est maintenant que ça se joue. Il y a besoin de tout le monde. Je vois que la salle est très nombreuse et c'est très satisfaisant. Nous, on a rencontré déjà les commissaires enquêteurs. Ce sont des gens très civils qui ne demandent qu'à recevoir des gens qui ne demandent qu'à recevoir des argumentations. Je confirme tout à fait ce qu'a expliqué M. Boursereau. Ce qui les intéresse, c'est pas que l'enquête publique fonctionne comme un référendum par oui ou par non, mais qu'il y ait vraiment une discussion argument contre argument. Et le travail qui doit être fait, c'est effectivement de mettre sur la table tous les arguments auxquels on peut penser, en les développant et plus important encore, en les étayant. C'est-à-dire il faut leur donner à manger, il faut leur donner à réfléchir, il faut leur donner des éléments appuyés sur des données chiffrées, etc., sur du concret. Et c'est à partir de ça qu'ils feront leur travail, qu'ils produiront leurs rapports, leurs analyses, et qu'ils en déduiront leur avis final sur le projet. Voilà. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, aussi bien par Jean-Baptiste que par M. Boursereau. Je ne vais pas refaire l'exercice, je ne vais pas vous infliger ça. On y travaille aussi de notre côté. On va produire des analyses qui seront estampillées à tous les niveaux de notre mouvement France Nature Environnement. C'est-à-dire qu'il y aura une déposition signée France Nature Environnement au niveau national. Il y aura le niveau régional, le niveau départemental, le niveau local, comme on avait fait en 2011. Si j'ai une chose à ajouter, peut-être, à ce qui a été dit, c'est celle-ci. Je ne sais plus lequel de vous deux a dit « on a fait les choses à l'envers dans le dossier ». C'est particulièrement flagrant quand on pense que, et ça c'est une discussion qu'on a déjà eue avec le commissaire enquêteur, le fond du sujet c'est un territoire comme celui de Bretignolles, un territoire comme celui du pays de Saint-Gilles, qu'est-ce qu'on veut lui dessiner comme avenir? C'est quoi l'enjeu? Quels sont les grands enjeux? Quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles il faut travailler et projeter une planification d'aménagement à 10, 15, 20 ans? Ça se fait, ça, de par la loi, dans des documents de planification qui sont le SCOT, Tu as dit tout le mal qu'on pouvait en penser. À l'échelle d'une commune, ça se fait d'abord dans un PLU, plan local d'urbanisme. Il se trouve que là, alors je vais faire un peu d'ironie peut-être, ne m'en veuillez pas, on peut s'interroger sur la difficulté qu'a eue visiblement monsieur le maire de Brétignolles à s'entendre avec monsieur le président de la communauté de communes pour faire que les choses se fassent dans l'ordre, qu'on élabore un projet de PLU, qu'on le mette à l'enquête publique pour recueillir l'avis de la population sur sa vision sur le développement de son territoire, et qu'ensuite seulement, le cas échéant, on vient discuter à l'intérieur de ce PLU d'un projet structurant parmi d'autres. Là, vraiment, les choses sont faites à l'envers, c'est-à-dire que c'est très important de prendre conscience de ça. Le projet de PLU viendra à l'enquête publique quand tout sera joué.
Oui.
Et ça, je pense que je m'adresse là du coup aux Brétignolais qui sont directement concernés. Allez le dire à la commission d'enquête. N'hésitez pas, allez aux permanences, allez les rencontrer, ils vous recevront. Et exprimez-leur votre frustration de voir les choses faites à l'envers avec un PLU qui sera mis à l'enquête publique après que tout sera joué. C'est absolument anormal. Voilà, merci.
Par rapport à ça, j'aimerais bien rajouter quelque chose. J'ai oublié tout à l'heure de vous dire, il y a deux points qui sont quand même, qui paraissent essentiels. C'est les alternatives et l'intérêt public du projet. En 2011, c'était la ville de Brétignolles qui était porteur du projet de Port de Plaisance. Donc, elle raisonnait à l'échelle de son territoire. C'était normal qu'il est dans le cadre d'un développement économique. Elle a un projet local. Et son projet, c'était le projet de Port de Plaisance sur son territoire. En avril 2015, on passe, c'est le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui devient porteur du port de Plaisance. On passe à une autre échelle territoriale. Et dans cette autre échelle territoriale, il y a un port de Plaisance, le port Port-la-Vie. Donc la donne change complètement. La première chose à faire au niveau du pays de Saint-Gilles, c'est regarder les possibilités d'extension du Port-la-Vie. Et bien ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est aussi un point très important. Il faut savoir que dans le cadre de Natura 2000 mer, puisqu'on impacte Natura 2000 mer, il y a des obligations européennes. La première, c'est effectivement d'essayer d'éviter le projet en trouvant des solutions alternatives. Là, il y avait une possibilité. Et s'il n'y a pas de solution alternative, on se heurte à un deuxième point. L'intérêt public majeur. Comment peut-on penser qu'un port de plaisance local puisse avoir un intérêt public majeur pour une population sur l'aspect santé, sur l'aspect sécurité militaire, sécurité, etc. Je vais vous donner un exemple. Il y a le projet d'éoliennes, Noirmoutier, Île-Dieu, qui est construit sur la zone Natura 2000 mer. On comprend parfaitement, dans ce cadre-là, qu'il y a un intérêt public majeur. On est dans une stratégie nationale, même européenne, de transition énergétique, etc. Là, on comprend qu'on puisse effectivement avoir un projet d'intérêt public majeur. Ce n'est pas du tout le cas pour un port de plaisance. Raisonnement. Donc, ces deux points aussi qui sont essentiels dans notre raisonnement. Voilà.
Bonjour monsieur, monsieur Landier. Est-ce que vous pourriez nous donner ce soir, puis le mettre ensuite sur notre site internet, trois ou quatre actions que nous pourrions engager en tant que particulier pour nous opposer au projet? Vous donner un peu le sens de ma question, bien qu'étant résident sur la commune, je ne connais pas les moyens de contacter les enquêteurs. Je n'ai pas trouvé sur votre site pour l'instant comment me mobiliser personnellement pour venir en appui à l'opposition.
Bien, comme nous avons dit tout à l'heure, ces renseignements sont déjà sur notre site internet. Il suffit d'aller à la page d'accueil et prendre la page d'actualité. Vous aurez les clics pour les documents pour déposer vous-même. Il y a un site donc pour le dématérialiser, pour la consultation d'une part, et puis il y a une adresse email pour les dépositions d'autre part.
Maintenant, nous, la VJ, les documents que nous allons remettre avec Jean-Yves en son rendez-vous qui est prévu, ce dossier donc, assez lourd que vous avez vu là, nous n'allons pas vous en priver. Vous pourrez y accéder dès lors que nos interlocuteurs officiels ont pris connaissance. Ils seront placés sur une plateforme qui vous permettra d'y accéder en toute liberté, télécharger, regarder. Et là, vous aurez un petit peu de la mouture de tout ce que nous avons fait pour vous construire votre déposition. Vous avez jusqu'au 29 septembre pour cela.
Je suis un peu surpris qu'on n'ait pas accès facilement au registre dématérialisé. Je suis tout à fait étonné que des gens passent par le blog pour aller pour pointer sur le registre dématérialisé.
Pour répondre à la question de mon voisin, parce que je viens de m'entretenir une seconde avec lui, par exemple, il dit, est-ce que moi je peux aller voir les commissaires enquêteurs? Peu de gens lisent le journal, peu de gens lisent les avis publics qui sont sur les affiches disséminées avec Bignol. Il faut les mettre facile d'accès dans votre blog ou sur le site de la VJ pour que monsieur dise, ah tiens, c'est mardi de 15h à 17h, je vais aller rencontrer les commissaires enquêteurs. Et tout le monde n'a pas ces dates-là en tête.
Mais si, moi,
je le disais, il faut aller les voir, ils sont pas dans le... Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont du mal à comprendre que c'est pas tous les jours, de 8h à midi, il faut ne pas donner le calendrier de disponibilité, enfin pas de disponibilité, de visite des commissaires enquêteurs, qui soit facile d'accès.
Il y a quand même des affiches dans tout le Brétignol.
Tout le monde ne lit pas, tout le monde ne lit pas le journal.
Lorsque nous avons imprimé ce document qui a été distribué largement dans les boîtes aux lettres et des communes voisines, nous n'avions pas ces informations. Et ni les dates, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Depuis, bien entendu, immédiatement, dès que nous avons eu l'arrêté du préfet, nous avons diffusé ça sur nos blogs et sur nos réseaux sociaux. Donc, par conséquent, il faudrait une distribution de la lettre de la communauté de communes. Mais pour autant, les outils informatiques et dématérialisés sont là pour pallier à cet inconvénient. Et bien sûr, vous allez me dire, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde ne va pas sur ces outils-là. Aujourd'hui, bien cela reste un petit peu comment faisions-nous autrefois. Bon, on a progressé quand même avec ça, il faut le dire. Nous ne sommes pas à la traîne, nous faisons avec ces moyens-là aujourd'hui.
Oui, ça marche. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Ce n'est pas moi, hein, de toute façon. Et c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, cette carte en une phrase. Prendre soin de la nature, c'est s'occuper des hommes.
Oui.
Tout à fait d'accord. Allez, ici, une question.
Le fait que c'était un projet du passé, port du passé, en disant qu'effectivement, l'idée de développer un port, c'était dans une vision d'avoir un développement économique. C'était une façon désuète de le faire. Est-ce qu'il y a une réflexion de la part de la VJ d'une solution alternative à un développement économique au sein de la commune de Brétignol?
Oui, c'est ce que vous venez de dire. On en a déjà abordé un petit peu le sujet dans les coûts et le développement avec l'alternative du pays de Saint-Gilles avec ses ports, son port qui est quand même une unité de production économique extrêmement importante pour une communauté de communes. Elle est même essentielle, c'est un port de plaisance, c'est un port de commerce avec la pêche. Donc il est complet dans sa structure et il dispose de possibilités d'extension et de réaménagement possibles. Ça veut pas, par contre, ça coûte très cher d'aller étudier comment on pourrait s'y prendre. Et au lieu de dépenser 6 millions, 7 millions pour le port de Brétignol qui va souiller une zone neutre, une zone naturelle, une zone vierge, comment des responsables de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'économie, puisque c'est de ça qu'on parle, ont investi en perte sur un sujet dont, tout début, les avocats qui ont été consultés par le porteur de l'ouvrage, M. Chameau, lui ont dit dès 2003, « Monsieur, vous avez au-devant de gros problèmes juridiques. » Et nous, la vigie, on est en train de se préparer à ça parce qu'il ne nous a pas donné le choix. Maintenant, économiquement parlant, Jean-Yves vient de parler de l'alternative. Et quand on veut faire du développement économique et des solutions alternatives, eh bien, nous sommes à quelle place pour faire ce genre de travail? Ce n'est pas vraiment l'endroit. Nous dénonçons ce qui est nommé. Nous disons qu'il serait préférable de faire de l'investissement sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui en a tellement besoin. Sa structure date de 1976. Chacun sait qu'il y a un vieillissement, il faut de l'entretien et des coûts. D'ailleurs, nous en parlons pour cet ouvrage que nous décrions comme étant quelque chose à l'avenir qui va être très très difficile à gérer pour ces raisons-là et pour le paiement des emprunts. Des surcoûts qui sont inévitables par rapport aux chiffres qui nous sont annoncés. Donc tout ça, on ne comprend pas, le plan business plan ne répond pas, si vous voulez, à la capacité de faire des revenus, justement, ces revenus qui sont recherchés pour aider les collectivités qui sont en perte de subvention, paraît-il. Moi, je dis que là, je suis peut-être pas un grand savant, mais quand on étudie, qu'on regarde le dossier, on voit bien que qu'est-ce que cherche l'investisseur dans cette affaire, sachant que tout est difficile, juridiquement, économiquement. On ne fait pas ça un développement économique.
Quelque chose sur le port de Saint-Gilles. Sur le port de Saint-Gilles, il faut se balader à marée basse, effectivement, à regarder les vasières qui existent. Enfin, disons, c'est assez spectaculaire. Il y a une chose que l'on ne peut pas faire, c'est faire quelque chose. Il y a deux ponts à Saint-Gilles, la Concorde et la Rocade. Il y a une chose que. Il y a une protection très forte au-delà du pont de la Rocade, on ne peut rien faire. Par contre, entre le port de Plaisance où il est et le pont de la Rocade, il y a des possibilités. On ne va pas nous faire croire qu'on n'est pas capable de faire des choses dans une vasière, alors que là, on va effectivement faire 1 600 000 mètres cubes de déblai. Enfin, c'est pas, peut-être même plus que ça. Donc, c'est quand même. Et puis, on ne peut pas nous dire, comme vous le dites, il n'y a rien de possible à Saint-Gilles. Il y a deux exemples. Il y a Philippe de Villiers, il a eu une bonne idée un jour de faire une course Saint-Gilles-Saint-Pétersbourg. On a trouvé tout de suite, effectivement, l'endroit où creuser pour. Et puis les financements. Deuxième exemple, l'entreprise Beneteau dit on va faire à Givran une grosse unité pour les gros bateaux. Et il faudra qu'à Saint-Gilles, il y ait une réception possible dans le port. Il n'y a pas eu de problème à ce moment-là pour trouver une solution et proposer quelque chose. Donc on ne nous fera pas croire qu'à Saint-Gilles, il n'y a pas la place pour de nouveaux appointements et pour une meilleure organisation du port de Plaisance. Ça permettrait peut-être encore de gérer encore beaucoup mieux la circulation des bateaux dans le lit de la vie. Donc, moi, c'est mon avis. Alors, peut-être que les associations de Saint-Gilles ne sont pas totalement d'accord, mais nous, on défend le site de la Normandie.
Merci. Je ne suis pas expert, je ne sais pas effectivement quelles sont les modélisations possibles, mais je reviens sur la rupture du cordon dunaire. On a tous en tête la route sur mer. Et il me semble effectivement que parmi les arguments qui devaient être présentés, celui-ci est un argument majeur, vous l'avez évoqué. La rupture effectivement du cordon dunaire, c'est un risque majeur, me semble-t-il, en cas de tempête. Comme on est certain qu'elles se reproduiront et de manière peut-être effectivement plus récurrente, compte tenu des dérèglements climatiques. Et là encore, sans aucune idée d'une modélisation, mais qui doit être possible, quel sera l'impact effectivement d'une méga tempête, comme on sait qu'elles se produiront de toute façon, avec cette rupture du fond dunaire, avec ce chenal, et avec des habitations. Alors, je n'ai pas la maîtrise, effectivement, en termes de distance par rapport à la zone du port futur, mais des habitations qui ne sont de toute façon pas très très loin. Néanmoins, combien y a-t-il, je ne sais pas. Mais voilà, il me semble, encore une fois, que dans le principe de précaution qui doit s'appliquer à tout projet à venir en fond de mer, dans le domaine maritime, la faute sur mer, c'est quand même effectivement un précédent. On ne pourra pas dire demain s'il se passe une catastrophe majeure, parce qu'on aura laissé des gens construire un port, creuser un port, pardon. Si je suis dit, c'est parce que je trouve que c'est aberrant, bien évidemment. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.
Oui, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le niveau altimétrique du sol du marais sur lequel on va creuser est à 9,70 m, 80 m du zéro Côte-Marine. Je ne vais pas vous parler en UGF parce que toutes nos études, on le fait avec le zéro Côte-Marine. Zéro Côte-Marine, si vous voulez, c'est le niveau qui se trouve au bout de la mouine, pour ceux qui connaissent le terrain. Et lorsque la barrée est très basse, avec un coefficient 115, là, vous pouvez y aller à pied sec. À cet endroit-là, il est là, zéro. C'est ça, le zéro. Donc, à partir de là, si vous voulez, vous tirez un trait et puis vous voyez les profondeurs où il faut creuser. Donc, le travail de la dune pour le trancher. La dune aujourd'hui, donc le belvédère sur le petit chemin, où vous avez très très belle vue sur le site de notre site, eh bien, vous êtes à 17 mètres du zéro. Ainsi donc, pour comprendre, pour avoir un tirant d'eau pour un bateau qui rentre, ils ont estimé 1,50 m. Je peux vous assurer que c'est peu. En plus, je continue parce que là, je vais vous en parler pour le chenal, puisque ce chenal est prévu semi-immergé. Donc, le dépôt sédimentaire qui transite nord-sud, dès qu'il y a une tambouille de gros temps, même si c'est un petit coefficient, vous avez une turbidité énorme, c'est-à-dire des tonnes de sable qui sont en suspens dans les vagues. Et ça, ça se dépose au moment où le reflux se fait. Et en quelque sorte, si vous avez un chenal positionné comme on nous l'annonce, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas du sable dedans. Avec un simple tirant d'eau de 1,50 m avec un coefficient de 110, ben vous ne rentrez plus. Hein. Vous avez talonné si vous avez une quille, c'est obligatoire.
Les promoteurs du projet qui n'ont pas de tuyaux disent que l'avant-port est un avant-port de protection contre les tempêtes. Et ils l'ont vérifié en canal à houle, à BRL.
Le projet engagé occasionne beaucoup de troubles, en particulier dans la population. Et moi, je vous remercie de vous être engagé personnellement dans cette affaire. J'ai une simple question à poser. Tous ces millions engagés, tous ces efforts, etc., mais à qui profite le crime ?
Oui, nous on paiera deux fois.
Merci.
Parce que quand la Comcom va reprendre.
Je crois qu'il n'y en a pas un qui ne s'est pas posé la question un jour. Moi je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais dire, ben moi j'ai rien à gagner de faire ce que je fais. Sinon, celui de mes enfants, pour qu'ils aient une plage, une vraie plage, propre et naturelle, et puis que quand des amis viennent voir mon beau pays, ils se disent « Ah, vous avez de la chance, comme ils me le font toujours.
» Bonsoir. J'aurais aimé savoir si on connaît le profil des personnes qui ont déjà réservé des anneaux. Sachant qu'il me semble que l'enquête d'utilité publique de 2011 avait démontré que 50% de la réservation de, enfin, de location des anneaux était fausse.
Oui.
Donc, pour savoir si on en savait plus.
On n'a pas accès à la liste, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des. Enfin, on n'a pas accès à la liste. Moi, je ne connais pas, tu connais peut-être. Non. Par contre, il y a des dépositions intéressantes. Là, on voit des gens qui ont des bateaux à Port-Olonnaz ou Port-la-Ville qui font des dépositions pour demander le port pour transporter leur bateau à Port-Bonnial. Là, on est dans l'intérêt général.
Nous avons cherché des renseignements sur toutes les bases de données qu'on peut trouver éventuellement. Enfin, nos moyens à la semaine sont un peu limités, comme on vous l'a déjà dit. Mais pour autant, nous avons observé que les demandeurs sont des fois des gens qui ont déjà une place quelque part, qui veulent en changer. Là, Jean-Yves vient de le dire pour ce qui concerne localement, mais c'est beaucoup plus large que ça. Vous avez des personnes qui ont des bateaux à l'endroit, tiens, ils ont changé de résidence, ou ils ont une famille, ils veulent se rapprocher, et ils ont des demandes sur différents ports, et plusieurs à la fois. Donc ça, ce ne sont quand même pas des données que nous inventons, elles existent. Donc les chiffres qui vous sont proposés pour vanter les mérites de besoin en anneaux sont bien entendu optimisés dans le sens inverse. Voilà. Oui ? Pardon ?
Non, mais d'abord je suis époustouflée. frustrée par le travail que vous faites depuis 16 ans, donc je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vous admirent, et merci pour tout ça. Je voulais répondre un peu au monsieur de Couëc. Je ne sais pas si ce soir il y a beaucoup de personnes hors Bretignolles. Moi j'en suis et suis élue sur Saint-Hilaire dans l'opposition. Et pour essayer de faire avancer des choses, on a élu chacun nos maires. Nos maires font partie de cette communauté de communes. Ils ont tous voté pour que ce projet passe à la communauté de communes. Très peu d'informations là-dessus. Certaines personnes ne savent même pas que ce projet est fait partie et qu'ils vont le payer, donc, entre autres. Et donc, pour essayer de voir les choses, pourquoi ils votent tous pareil? Je suis sûre que dans certains d'entre eux que je connais, ne sont pas vraiment fondamentalement convaincus pour ce port. Mais ils n'osent pas forcément aller contre, parce que c'est un vrai panier de crabe où chacun c'est donnant-donnant. Moi, je dis comme je le pense, vous voyez comme vous le pouvez. Par contre, nous, en tant qu'élus, on a élu notre maire, et on pourrait aussi demander, via les élus d'opposition ou autre chose, que dans les conseils municipaux, bah, qu'ils fassent un rapport un petit peu de ce qui a été voté à la communauté de communes, et qu'ils nous disent qu'effectivement, il y a une enquête publique. Moi, j'ai essayé pour ma part dans ma commune, il n'y a rien sur le site, il n'y a aucun bruit là-dessus, sauf sur le Facebook du maire, qui dit que c'est un super port. Mais officiellement, les gens ne vont pas forcément sur son Facebook, ils vont sur les sites de la mairie. Or, il n'y a rien. Donc, je me dis qu'on pourrait peut-être écrire, ou faire une pétition à nos maires pour leur demander que cette enquête publique soit discutée, peut-être, enfin, soit moins annoncée, pardon, et qu'on fasse un petit rapport de ce qui a été fait au niveau de la com là-dessus. Voilà. C'était peut-être pour que chacun puisse un petit peu influer sur son maire.
Une action qui pourrait être remontée au commissaire enquêteur aussi.
Bien sûr, mais je vais faire ça.
Je voudrais surenchérir sur la remarque de madame,
et que
c'est le meilleur exemple de ces gens qui sont responsables dans la communauté de communes. Notre maire, vous allez sur le site de la commune de Brême, il n'y a rien, une simple phrase sur l'enquête publique.
Bonjour. Je voulais revenir sur les notions d'expropriation de terrain. Alors, effectivement, il y a une emprise du port qui sera sur une certaine emprise foncière, et il y aura ensuite un autre besoin foncier qui sera pour une compensation. Donc ça, on a tous bien compris. Je fais partie des heureux propriétaires qui ont eu l'occasion de recevoir un courrier recommandé m'annonçant l'expropriation. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si aujourd'hui, est-ce que pour les expropriations, est-ce qu'il y aura une action collective d'entreprise? Est-ce que chacun se débrouille de son côté? Sachant que pour moi, une action collective aura quand même plus d'impact. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose aujourd'hui qui a été engagé dessus?
On me demande ça assez souvent, là, maintenant, depuis quelques temps, effectivement. Nous, en ce qui nous concerne la Vigie, bien sûr, nous ne pouvons pas prendre ce genre d'initiative à notre compte, mais j'ai répondu à toutes les personnes qui m'ont sollicité d'essayer de faire la liste de tous ceux qui ont reçu quelque chose, puis vous contacter les uns les autres pour essayer, parce qu'il y a là de quoi faire une démarche disant « mais comment ces menaces d'expropriation alors qu'il n'y a rien de fait ?» Qu'il y ait un inventaire de zones, si vous voulez, des propriétés, que l'inventaire, si vous voulez, de ce point de vue-là, n'est pas bien fait, qu'il a été demandé par le préfet parce qu'il a considéré qu'il était mal fait. Et qu'il y ait des excuses de la part des communes pour ne pas avoir mis à jour leur plan cadastral des propriétés. Bon, oui, ça peut arriver. Il y a parfois, lors de sessions d'héritage, etc., des documents qui ne sont pas fournis pour pouvoir faire ce genre de changement et de mise à jour. Il peut y avoir de la négligence aussi, mais ici, on développe un plan sur 70 hectares, plus des compensatoires qui vont au-delà, pour arriver à l'enquête publique déclenchée pour demander l'inventaire et la mise à jour parcellaire. Vous admettez quand même que là aussi, on peut s'interroger. Comment ? Eh bien, moi, je ne vous réponds pas, je n'ai pas la solution, mais je trouve que c'est aux gens qui ont reçu ces lettres de se coaliser pour dénoncer cette manœuvre. Elle est bizarre. Bon, elle est légale dans le sens qu'il faut faire l'inventaire parcellaire, effectivement, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais les termes employés, je vais pas lire. Moi, je suis outré.
Si vous avez passé devant la façade de la mairie de Batignolles, vous avez vu qu'elle est tapissée de courriers retournés de gens qui n'ont pas accepté le courrier de droite. Il faut savoir que notre famille, moi, jusqu'à
maintenant, on a introduit ce document-là, il est matérialisé sur le site.
Brusquement,
non, il n'est pas sur le site. Il y a 40 ans, il a reçu une lettre de demande.
Comme quoi, il a un taillis de 46 mètres carrés.
Sur les motifs de Brenne, sur nos blogs perso, il n'existe pas en dématérialisé.
Non, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais nous, on a décidé de rien faire.
Je verrai avec Jean-Baptiste.
Oui. Moi, je m'occupe du Facebook. Je ne l'ai pas mis sur Facebook, de la vigie. Jean-Baptiste s'occupe du site de la vigie.
Alors, il y a une personne qui m'a dit : moi, je vais dresser la liste.
Non, parce que ça, on l'a fait faire récemment.
Différents blogs, donc on pourrait aussi relayer ce document sur nos blogs.
Ah oui,
je ne sais pas
dans le dossier, vous avez une enquête parcellaire, et si vous l'ouvrez, vous avez une liste avec les numéros des parcelles, le nom des propriétaires. Donc c'est assez facile de contacter les propriétaires. Il y a les noms, les adresses et les numéros des parcelles. Il faut simplement aller sur le dossier. Hein ? À condition que les propriétaires, oui, soient encore vivants.
Oui, parce que les morts ont reçu.
C'est comme encore, c'est les morts.
Oui, je le fais peut-être ici aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils gagnent à chaque fois.
Comment se procurer la totalité des adresses et puis essayer. Eh bien, c'est une soirée agréable.
Oui.
Bonsoir. Je voulais revenir sur le versement de la dune, parce que en consultant le dossier, je me suis rendu compte qu'en fait, il était prévu que le sable excavé devait être tout simplement déversé sur la partie sud du chenal. Et cette partie sud, que je sache, est déjà occupée par des enrochements. Et puis. Ensuite, la plage des Dunes, donc ça pose quand même un certain problème, et c'est pour un volume estimé à, je crois, de mémoire, 40 000 mètres cubes ou 50 000 mètres cubes de sable. Ce qui, à mon sens, est comment quantifier ce que ça va représenter exactement, ça me paraît difficile à quantifier comme ça en excavation.
Alors, les promoteurs du projet font une différence entre le chenal et les bassins portuaires. Ils partent du principe que dans le chenal, il y a du sable aussi propre. Donc, ils ont prévu des dragages 2 à 3 fois par an, et ils ont prévu d'utiliser la drague aspiratrice de Port-la-Vie dans la perspective de mutualisation des moyens, en rejetant le sable, effectivement, pour alimenter les plages de proximité, en évitant les herbènes.
Ah oui, parce qu'elles n'aiment pas le sable.
Par contre,
alors ça,
ils vont les enlever avec des pinces à épiler.
Non, parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien programmées, parce que de toute façon, il y a un point de base, c'est que ce qui va se prévoir une fois qu'on aura mis des récifs à chenal, des murs d'enrochement, c'est difficile à modéliser. Le milieu est trop complexe, il y a des courants imprévisibles, et les gens se permettent de dire « oui, on a tout prévu parce qu'on a fait des essais en canal à houle ». Là, c'est déjà une absurdité notoire. Donc ça, c'est un point qui nous pose problème. Le deuxième point concernant les rejets, puisqu'ils disent qu'ils utilisent la drague aspiratrice pour mutualisation des moyens, il va y avoir le problème des bassins portuaires. Et là, on ne va pas être confronté à du sable propre. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne veut plus maintenant, effectivement, alimenter des secteurs de proximité au large en mer, comme on le fait à Saint-Gilles. Quoi. Je veux dire, il y a un refus, puisque je pense que vous avez dû voir, effectivement, il y a eu beaucoup d'articles sur les incidents qu'il y a eu, sur les surfeurs qui ne sont pas d'accord, etc. Donc,
les allergies.
Sur les allergies.
Et il propose effectivement, simplement pour des raisons économiques, de, effectivement, d'utiliser les moyens de Saint-Gilles. Il n'a jamais fait de proposition de traitement à terre des boues qui seraient polluées, des bassins portuaires. Pourquoi ? Parce que ça coûterait beaucoup plus cher.
Et sur le recouvrement de cette partie sud, suite aux travaux de construction du port.
En sable, vous voulez dire ?
En sable,
ouais. Ça sera là, ça sera le sable propre uniquement. C'est le terme, je reprends les termes du sable propre, donc il réalimente les sables parce qu'il considère qu'il va y avoir quand même un impact sur le transit sédimentaire. Donc ils font. Ils vont pas jusqu'à proposer quand même comme un cap breton une pompe d'un côté pour.
Jeter
de l'autre côté, oui. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est que dans le dossier d'enquête publique en 2011, il y avait un dossier de réalisation du port. C'est-à-dire qu'on définissait relativement les opérations de réalisation. Dans le dossier de 2018, il n'y a pas de dossier de réalisation. Ça veut dire que si le préfet prononçait l'utilité publique, le maître d'œuvre passerait 6 mois à préparer le dossier de réalisation. Et là, il y a beaucoup de choses qui pourraient être remises en cause. Donc, effectivement, il faut aussi se méfier de ça.
On n'a pas encore sorti les Belges. Ça fait 15 ans qu'on baigne.
Oui.
Bonjour. Pour ce qui concerne les propriétaires de terrains qui risquent d'être expropriés, bon, une façon simple, c'est d'aller au cadastre et de demander la liste des propriétaires. Et le cadastre vous donnera exactement la liste qui a été transmise à la mairie. Hein. Donc là, il ne doit pas y avoir de difficulté.
Merci.
Il n'est pas à jour.
Bien, je crois que plus de questions.